Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la lutte informationnelle et plus particulièrement des opérations informationnelles russes autour de la guerre en Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir deux chercheurs du Digital Forensic Research Lab qui est l'une, peut-être la structure de référence dans l'étude des opérations informationnelles. Tout d'abord, Mattia Caniglia, directeur associé du DFR Lab, le directeur surtout de l'antenne qui est basée à Bruxelles. Et vous avez notamment contribué au rapport Undermining Ukraine, How the Kremlin Employs Information Operations to Erode Global Confidence in Ukraine. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour à toi Alexandre.
Et ensuite Valentin Châtelet, chercheur associé au même DFR Lab, toujours à Bruxelles, co-auteur, contributeur à un autre rapport sorti en même temps et intitulé « Narrative Warfare, How the Kremlin and Russian News Outlets Justified a War of Aggression Against Ukraine ». Donc bonjour, bienvenue à vous aussi.
Bonjour.
Alors je vais commencer par dire quelques mots simplement pour introduire un peu ce qui va être le socle de cette émission, c'est-à-dire le travail du DFR Lab qui est devenu depuis plusieurs années une structure qui produit beaucoup de connaissances sur tout ce qui concerne les opérations informationnelles. D'ailleurs, c'est ce que signale le nom même, Digital Forensic Research, donc de la recherche presque médico-légale, au sens des médecins légistes qui cherchent à déterminer les causes de décès de telle ou telle personne. Mais vous travaillez donc sur les opérations informationnelles, en tâchant de les documenter, de les détailler, parce qu'évidemment, l'information, notamment en ligne, c'est un domaine qui bouge très vite et qui s'efface très rapidement. Et je vais dire que le DFR Lab est, je crois, devenu une référence du domaine, parce que vous produisez de la data, de la donnée sur ces opérations au travers du genre de rapport dont on va parler, qui est ensuite reprise et qui forme un socle et la matière qu'utilisent beaucoup d'autres chercheurs sur le sujet. Je le dis parce que c'est pas facile à faire d'étudier ce domaine en particulier, parce que je crois que c'est un travail, une méthodologie qui a depuis servi d'exemple et de guide de bonne pratique pour plein d'autres acteurs. Par exemple, ici, on a notamment eu le rapport IRSEM sur les opérations d'influence chinoise de Jean-Baptiste Jean-Gène Villemaire et Paul Charron. On avait fait une émission évidemment autour du rapport. Donc les auditeurs sont peut-être un peu familiers de ce travail qui clairement emprunte beaucoup dans l'objectif et dans les méthodes à ce que fait le DFR Lab depuis des années maintenant. Ensuite, il faut juste que j'ajoute autre chose, parce que je vois sinon très bien qui et comment on risque de nous tomber dessus, c'est le fait que le DFR Lab est une structure dépendante et une structure de l'Atlantic Council. Alors, l'Atlantic Council étant lui-même une structure qui n'est pas forcément très facile à caractériser, mais c'est un think tank américain qui a plus de 60 ans maintenant, destiné à renforcer le lien transatlantique. On avait parlé il y a longtemps maintenant avec Benjamin Haddad dans une émission qu'on avait faite autour de son livre sur l'Amérique de Donald Trump, parce que Benjamin Haddad était chercheur à l'Atlantic Council à Washington avant de se lancer dans une nouvelle carrière depuis peu. Mais donc, c'est un organisme qui n'est en fait pas dépendant du gouvernement américain ni de l'OTAN, mais qui, bon, clairement se comprend dans le cadre du dialogue et de l'Alliance Atlantique. Je le mentionne parce que, évidemment, certains commentateurs vont bien sûr dire que ça n'est pas une structure objective, voire que c'est une officine des États-Unis, un relais de discours atlantiste, qui ne serait donc évidemment pas fiable pour étudier la Russie et ses actions. Donc voilà, je l'ai dit, j'ai formulé l'objection, si c'est ce que pensent certains auditeurs en ce moment. Bon, félicitations pour votre folle perspicacité, pour votre incroyable originalité d'esprit, mais je vais choisir de ne pas perdre plus de temps avec ça. Si certains pensent encore, disons au bout de 13 mois en Ukraine, qu'il faut surtout avoir un point de vue équilibré entre les belligérants et comprendre les Russes qui n'ont pas totalement tort, bon, je sais pas tellement quoi vous dire, si ce n'est conseiller d'aller voir sur Russia Today si j'y suis, parce que ça va pas tellement être l'angle de cette émission, je pense qu'on peut le dire tout de suite. Il reste dans tous les cas qu'en fait il suffit de regarder les travaux du DFR Lab et l'entreprise de collection de données et d'articulation de tout ça qu'il y a dans les rapports. Parce qu'il y a les références, il y a les sources, il y a les notes de bas de page, même quand c'est des PDF, donc on peut cliquer, on peut naviguer entre liens pour voir que c'est un très gros travail dont on peut sans aucun doute discuter certains points précis, mais qui serait tout à fait stupide de disqualifier simplement parce que ça vient de l'Atlantic Council. Alors, j'ai beaucoup parlé, mais je pense que c'était utile pour cadrer les choses, et puis surtout, on va désormais pouvoir entrer dans le vif des choses. Et de ces deux rapports, qui sont donc d'abord un rapport sur les opérations informationnelles précédant la guerre, donc la diffusion de récits visant à la justifier, ça c'est le rapport Narrative Warfare, et ensuite un autre sur les opérations depuis le début de la guerre, donc la manière dont les Russes tentent de renforcer leur action militaire par des opérations informationnelles, c'est le rapport Undermining Ukraine. Donc en direction d'un public qui est à la fois, on en reparlera, mais qui est à la fois russe, ukrainien, mais aussi plus largement européen et mondial. Et simplement pour commencer, pour attaquer tout ça, pour poser les bases, j'aurais aimé vous parler peut-être un peu plus en détail de votre travail, de sa spécificité, pardon. Bon, pour le dire clairement, comment est-ce que vous procédez, comment est-ce que vous travaillez au DFR Lab, voilà, pour documenter et analyser toutes ces actions-là dans le champ informationnel, parce que je l'ai dit, c'est éphémère et c'est parfois difficile à sourcer et à matérialiser. Mattia Caniglia.
Déjà, Alexandre, merci pour cette introduction. Et il y a déjà quelque chose que je dois dire tout d'abord. Oui, on est une entité basée à des États-Unis et clairement, on fait partie de l'Atlantic Council, donc on a cette vocation transatlantiste. Mais quand même, notre team est basé un peu partout dans le monde. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait de la recherche. On fait de la recherche pour monitorer l'espace informationnel dans le monde. Et on le fait avec des personnes qui vivent un peu partout. Donc, ce n'est pas les points de vue seulement américains. Moi, je suis avec moi.
Vous n'êtes pas basé au Patagone, quoi.
Pas la Patagone, mais on a un team en Sud-Amérique, précisément en Colombie et en Chile, et bientôt aussi au Brésil. On a une partie de notre team qui est en Sud-Afrique. On a une partie de notre team qui est en focus sur l'Égypte, les Baltiques, la Pologne et Taïwan, et donc voilà, on est un peu partout, et ça fait partie de notre méthodologie, en fait, d'investiguer l'espace informationnel avec la connaissance et l'expérience de gens qui connaissent l'espace informationnel de cette région. Et ça, je trouve, c'est très important.
Vous voulez dire, on ne peut pas faire efficacement, même si tout est en ligne, ça nécessite une certaine connaissance un peu fine de ces pays pour être capable de vraiment faire des études sur l'espace informationnel. Ça ne se fait pas de Washington, quoi.
Ce que je veux dire, c'est que normalement, vraiment la caractéristique de l'espace informationnel, c'est qu'il n'y a pas de confins. Mais même il y a des différences d'un espace informationnel à l'autre. Par exemple, au Brésil, on pourra trouver une situation dans laquelle Telegram n'est pas très diffusé. Mais WhatsApp, ça va pour la majeure. Et même chose, de différences similaires, on peut trouver entre l'Afrique et l'Europe, ou l'Afrique et l'Asie, etc., etc. Donc, vraiment, on a besoin de comprendre. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, pour les récits, pour comprendre les récits, il faut comprendre les contextes culturels, historiques, sociaux, économiques. Et pour avoir cette typologie de connaissances, on a besoin d'une connaissance qui est locale.
Alors, ensuite, parce que c'est à la fois intéressant et intriguant, quoi. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on documente tout ça ? Comment est-ce qu'on produit des données qui sont stables et solides et qu'ensuite on peut mouliner, y compris avec plein d'outils très, très technologiques et très informatiques, comme l'en regorge les rapports Valentin Châtelet ?
Alors, ce qui, à mon avis, est important de mentionner, c'est que le DFR Lab, comme beaucoup d'organisations en fait, qui s'occupent de désinformation ou de ce genre de soucis, utilise la recherche en source ouverte, ce qu'on appelle le ZINT. Et c'est une façon de documenter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans l'espace informationnel, d'archiver tout ça et de pouvoir établir des typologies qui permettent de donner lieu aux rapports dont on parle aujourd'hui. c'est aussi des techniques qui sont extrêmement importantes parce que n'importe qui peut s'y mettre. C'est-à-dire que ce que l'on fait est vérifiable par quiconque essaye de trouver les preuves que l'on mentionne. Les analyses que l'on tire sont faites d'informations que tout le monde peut vérifier, que tout le monde peut aller consulter. Personnellement, au DFR Lab, je m'occupe beaucoup de sécurité, donc d'analyse spatiale et géospatiale. Et l'un des points principaux qui a donné un peu lieu et impulsion au premier rapport, ça a été de documenter depuis 2021 la localisation des troupes russes aux frontières de l'Ukraine, les exercices militaires qui ont eu lieu, exercice Zapad 2021, et la façon dont cette croissance de l'armement peut être documentée en ligne sans avoir à uniquement se référer aux données officielles qui sont publiées par un parti ou par l'autre, mais que chacun peut aussi consulter et estimer avec toutes les preuves que l'on peut trouver.
On en parlera, mais c'est très intéressant parce que vous montrez, donc vous avez travaillé sur le rapport sur en quelque sorte la montée en puissance avant la guerre, et effectivement vous dites que ça part du fait que ils avaient massé plein de troupes et en fait ils les avaient pas tant enlevés que ça, et que c'était donc contraire au récit qu'ils diffusaient à ce moment-là, et en quelque sorte ça peut vous avoir mis la puce à l'oreille. Mathias Caniglia.
Oui, c'était seulement pour dire qu'en fait les teams, cette team internationale est composée de 300 personnes et qui ça dit beaucoup sur notre taille pour le moment. Mais pour revenir sur quelque chose que Valentin disait avant, en fait c'est intéressant parce que les deux rapports de lesquels on parlera aujourd'hui, ils sont liés vraiment à notre origine. On a commencé en 2014 avec la situation qui détériorait en Crimée. Et le premier rapport qu'on a produit, c'était ce rapport qui vraiment allait dénoncer le mouvement de troupes de la Russie pour l'invasion. Et le rapport s'appelait « Hiding in plain sight, Putin's war in Ukraine ». Et utilisant des techniques de recherche et de sources ouvertes, le DFR Lab avait suivi les opérations russes et tout ça. Mais tout ça pour dire que oui, on fait de la recherche, on a commencé en faisant de la recherche, mais on fait pas seulement ça. On a aussi, on dirait que notre opération repose sur trois piliers, qui c'est la recherche, la policy action et l'action politique, on dirait peut-être, et le training, le capacity building. Ça veut dire qu'on fait des efforts en fait pour former deux autres gens et leur donner la possibilité de conduire des investigations aux INT et de savoir reconnaître en fait la désinformation. Et ça, c'est pour nous, c'est très important. Et parce que en fait, si tu veux un peu l'idée à la base de tout ça, c'est plus de gens on a dans le monde qui sait comment conduire des investigations aux INT, plus on est certain que le space informatique, ça va devenir ça va être plus en sécurité.
Simplement, je reviens parce que c'est intéressant. C'est aussi un peu une des limites de votre travail, je trouve, mais c'est intéressant parce que vous détaillez très bien la manière dont ces récits apparaissent et circulent et sont repris ou pas repris. Mais du coup, ce qui manque presque, mais en même temps, vous me direz peut-être que c'est pas votre objet, c'est la boîte noire, quoi. C'est d'où ils viennent, pourquoi ils sont circulés. C'est-à-dire, souvent, vous utilisez des métonymies, c'est le Kremlin, c'est la Russie, etc. Mais parfois, on a presque envie de savoir. Voilà, qui le fait, pour quel objectif, comment est-ce qu'ils s'y prennent, etc. Et ça, c'est en quelque sorte aussi un angle mort un peu de votre travail. Alors comment est-ce que vous concevez, si tant est que ce soit un objectif, mais comment est-ce qu'on peut boucher un peu cet angle mort dans une certaine mesure, Valentin Châtelet?
Alors je pense que quand on parle des rapports en question, on a une approche qui a été bottom-up, qui a été en fait de partir de la donnée pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et à partir de là... avoir des corrélations, avoir une compréhension plus globale de ce qui s'est passé. En ce qui concerne le premier rapport, on a compilé en fait des articles de désinformation qui avaient été débunkés par deux organisations, par EU versus Disinfo et par Stopfake. Et c'est extrêmement important parce que c'est pas la seule manière de faire de l'OSINT. Nous, ça nous a permis d'établir une typologie de 14 journaux qui publier ces informations sur l'Ukraine, qui publiait la désinformation. Mais il y a d'autres campagnes de désinformation qui ont d'autres formes, qui ne passent pas uniquement par la presse, qui ne passent pas uniquement par les réseaux sociaux. Et ce sont des organisations qui sont derrière. ce sont des gens, ce sont des offices, ce sont des entreprises. C'est une industrie, la désinformation, pour la Russie aujourd'hui. Et il y a d'autres façons de faire de l'OSINT en essayant de mettre au jour quels sont les acteurs clés, quels sont les financements, d'où ça vient. Et donc, c'est vrai que le rapport paraît ne pas nommer clairement, à part le Kremlin, d'où viennent ces informations, ces sources, ces récits. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est quelque chose qui n'est pas vérifiable, qui n'est pas possible de faire.
Alors, maintenant, si on entre un peu dans le détail, dans le vif du sujet, mais justement, j'aurais aimé commencer en prenant un peu de champ, mais puisque vous en parliez à l'instant, vous avez commencé en 2014, et ce qui est important, quoi, parce qu'il y a un passif sur les opérations informationnelles russes. Alors, on n'est pas obligé de enfin, on pourrait remonter jusqu'à l'époque soviétique parce que ce serait très intéressant et on va pas le faire parce qu'on n'a pas du tout le temps. On a plein d'autres choses plus contemporaines dont il faut qu'on parle. Mais on pourrait parler, on a déjà parlé ici, par exemple, de la prétendue doctrine Gerasimov, c'est-à-dire le cadre de compréhension parfois qu'on a essayé de plaquer sur la manière dont la Russie menait ses opérations avec des guerres hybrides. On avait fait une émission avec Emmanuel Dreyfus il y a un certain temps. Donc les auditeurs qui sont intéressés pour savoir ce qui se cache derrière cette idée de doctrine Gerasimov qui est très excessive peuvent aller consulter l'émission. Mais d'une manière générale, comment, si on se replace en 2021, quoi, au moment où le build-up, en quelque sorte, la montée en puissance se met en branle, disons, qu'est-ce qu'on savait, dans le contexte de l'Ukraine et même peut-être plus largement aussi, des opérations informationnelles de la Russie, de leur capacité, de leur mode d'action, voilà, quel était en quelque sorte le cadre de compréhension dans lequel est venu s'insérer ce que vous avez constaté à partir de 2021 ? Valentin Châtelet ?
En fait, à mon avis, il faut distinguer déjà deux choses. Il y a la désinformation à l'intérieur de la Russie, sur laquelle on a vu une progression depuis 2014, mais depuis surtout 2016, avec la loi sur les agents de l'étranger. Et c'est un champ de désinformation qui est assez différent de ce qui se passe à l'extérieur de la Russie, avec d'autres agents, comme Russia Today, comme Sputnik, qui ont d'autres narratifs qu'ils ont essayé de promouvoir auprès de l'opinion internationale. Et ils sont assez incompatibles et en fait il y a assez peu d'intersection entre ces deux espaces-là. Ce qui est assez intéressant de se rendre compte, c'est que en fait beaucoup de narratifs qu'on a retrouvés sur le début de la guerre en Ukraine en fait étaient déjà mobilisés depuis 2014. Cette idée que les Ukrainiens seraient des nazis, cette espèce d'exploitation de la figure de Stepan Bandera, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait déjà dans les journaux russes depuis 2014. Et c'est une façon...
Et donc à direction d'un public domestique.
Domestique, tout à fait. C'est une façon que la Russie a de considérer les pays de l'étranger proche qui hébergent une population russophone comme étant ses protégés, comme étant les siens. Et elle a traditionnellement cette perception historique d'elle-même d'être le héros soviétique de la Seconde Guerre mondiale qui a fait le sacrifice de 20 millions d'hommes. Et elle présente les pays de son étranger proche comme des pays qui, depuis leur indépendance, ont voulu couper des liens avec la Russie. Et il est très facile, en fait, dans un champ de désinformation, de antagoniser ces États-là en les présentant comme nazis. Parce que, dans leur histoire nationale, il y a eu un battement durant la Seconde Guerre mondiale parce que leur indépendance, je pense aux pays baltes, a été mise en danger. Et parce que, bon, pour Stepan Bandera, il faisait partie de l'armée d'indépendance ukrainienne. Et donc, ce sont des choses auxquelles, en Russie, on est très sensible. À l'extérieur de la Russie, c'est assez différent. Les opérations de désinformation, sans doute qu'elles ont pris en ampleur depuis 2014, parce que 2014, c'est l'année de création de Sputnik. Et je pense surtout qu'elles se sont étendues. Elles ont pris beaucoup d'ampleur, elles ont pris un auditoire qui est tout à fait nouveau, qui n'était pas juste destiné aux russophones de Russie et aux russophones de l'extérieur de la Russie, mais aussi au public étranger, en traduisant, en ayant des offices dans des langues nationales, en travaillant à l'étranger. Et finalement, c'est assez récent que en France, Russia Today ne fonctionne plus et ne publie plus rien. Et pareil dans les pays baltes.
Mathieu Kniglia.
Oui, tout à fait d'accord avec Valentin. On peut rajouter aussi qu'au niveau de récit, comme au niveau de modus operandi et de méthodologie, on a vérifié qu'il y a des choses qui ne sont pas changées et des choses qui sont changées, qui ont été adaptées. Donc voilà, au niveau
par exemple.
Par exemple, certains récits de l'agressivité de l'Ukraine, ou de la faute de l'Occident de créer de la tension en Ukraine, c'était là depuis longtemps, m'a été adapté à des différents contextes pour avoir un effet différent sur des différents pays européens. Donc, par exemple, en Italie, c'était utilisé à un certain moment de débat politique. Par exemple, notamment quand en Italie on discutait d'envoyer les armes en Ukraine, même chose en France quand on discutait d'envoyer les Césars en Ukraine. Et donc voilà, mais certaines méthodes ils ont changé. Dans un certain point, on peut dire aussi qu'en fait, le campagne informationnelle des désinformations qu'on voit de la Russie, et dont la qualité est devenue mineure, mais la coordination sur différents médias a augmenté. Et ça, c'est une chose importante. Mais la deuxième chose importante, c'est qu'aussi, ils ont commencé à faire de récits qui sont multilayered.
Multicouche, quoi.
Multicouche, voilà, merci. Et qui donc s'y base sur des preuves qui sont clairement fausses, mais qui font du building sur cette preuve fausse. Et voilà, ils sont adaptés pour cibler l'Occident.
Mais c'est intéressant, parce que c'est tout à fait fascinant, parce que c'est une dimension que vous prenez beaucoup, on en reparlera, je pense, la dimension autoréférentielle. C'est-à-dire, il y a un premier article qui est censé, enfin, premier récit qui est censé être factuel, appuyé sur des preuves, dont vous dites qu'elles sont fausses, c'est assez facilement vérifiable dans quasiment tous les cas. Mais ensuite, c'est des articles de commentaires de la première couche informationnelle, des articles de commentaires du commentaire, et ainsi de suite. Et ce que, donc, à la fin, quand c'est le commentaire du commentaire du commentaire qui arrive, l'auditoire, enfin, en tout cas, le public, n'a pas forcément le courage de remonter les quatre couches pour accéder au soubassement qui est faux. Donc, c'est cette dimension-là est assez efficace pour perdre un public qui, non, c'est pas la profession, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit la profession de tout le monde de remonter tout ça.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, c'est un peu fait partie d'une stratégie d'inonder l'espace d'information. Et aussi, ça vient avec des méthodologies qu'ils ont utilisées depuis 2014, mais surtout à partir de l'invasion de février 2022, qui se base sur, par exemple, l'utilisation de faux fact-checking. Et partant en inventant la fausse affirmation à démystifier, ou les piratages de sites web des médias pour diffuser des faux messages. Et même, on a conduit une investigation particulière sur ça. Les Russes, ils avaient organisé un network de pages sur Facebook qui, en fait, avait l'intention de montrer d'être de grands médias comme BBC, Der Spiegel, Le Monde, etc. Donc tout était similaire sur la page, et donc quand on reposte un link de cette page-là, ça semble vraiment Le Monde ou Der Spiegel, mais en fait, c'est pas ça. Et c'est seulement les titres. L'article, c'est pas bien écrit et tout, mais les titres, déjà, ça crée un problème. Et en fait...
Ouais, donc c'est en fait... Plus il y a de couches, plus c'est difficile de mesurer l'authenticité originale. Valentin Châtelet, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je voulais revenir sur cette méthode d'inondation, en fait, de l'espace informationnel. C'est quelque chose qui n'est pas très nouveau, mais en même temps, c'est fait à des propensions quasiment industrielles aujourd'hui. Le but, c'est de faire du bruit de fond. C'est-à-dire de semer tellement le doute que la vérité ne serait finalement pas possible à distinguer du reste. Et il y a une statistique intéressante du rapport que j'aime bien mentionner, c'est que entre le 17 février et le 24 février 2022, sur l'évacuation des civils du Donbass, on a 3000 articles qui sont publiés dans les 14 journaux que nous, on monitore. Ça fait quasiment 347 articles par jour. Et vous vous rendez compte de la masse de données et de la masse d'informations que ça suppose, et il est quasiment impossible de voir autre chose que ça dans les journaux russes à ce moment-là.
Ouais, en plus il y a un côté, plus il y a d'articles différents, et plus on a l'impression qu'il y a de sources différentes, alors qu'en fait c'est juste des articles qui reprennent tous les mêmes, mais évidemment quand on s'arrête au titre, c'est difficile de voir qu'ils reprennent tous les mêmes informations de base par ailleurs pas fiable. C'est tout à fait intéressant, on va évidemment revenir dessus, mais justement en entrant peut-être un peu plus dans le détail, alors peut-être on va commencer, bon, il y a une logique chronologique hein, évidemment à ces deux rapports-là. Donc le premier rapport, c'est sur lequel vous avez donc principalement travaillé Valentin Châtelet, celui qui est intitulé Narrative Warfare, donc quelque chose comme la guerre des récits, How the Kremlin and Russian News Outlets Justified a War of Aggression Against Ukraine, donc bon, comment le Kremlin et les médias russes ont justifié une guerre d'agression contre l'Ukraine. Alors, peut-être rappelez-nous, mais c'est intéressant, ne serait-ce que la chronologie en fait, de cette escalade informationnelle, de cette montée en puissance sur le champ informationnel, parallèle, superposée en fait, à la montée en puissance sur le terrain, puisque vous le disiez tout à l'heure, en fait, c'est de là que vous êtes parti aussi, c'était cette espèce de décalage entre le fait qu'il y avait une montée en puissance sur le terrain qui essayait d'être camouflée par des opérations informationnelles pour dire que pas du tout... Les Russes n'étaient pas où ils étaient, là où ils étaient. Donc voilà, dites-nous peut-être comment, à la fois comment vous l'avez vu venir et puis voilà, comment vous avez séquencé, scandé en quelque sorte cette montée en puissance russe en 2021, début 2022 quoi.
En début 2021, début 2022, en fait on s'intéresse aux 70 jours avant le début de la guerre. Là où il y a en fait de grandes décisions politiques qui commencent à être annoncées en Russie, où on commence à discuter... de l'indépendance des républiques autoproclamées du Donbass, de Luhansk et Donetsk. On commence au Kremlin à se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette situation. Et en même temps, la situation sur l'espace informationnel montre qu'il y a de la violence, qu'il y a des échanges de tirs, qu'il y a peut-être un conflit armé qui est en train de se profiler, sur des preuves qui sont complètement fausses parfois. Et il y a une instrumentalisation...
C'est-à-dire, au moment où ces questions-là sont posées en interne, en fait, dans l'espace informationnel, il y a déjà une sorte de préjustification qui se met en place en disant que... Enfin, je veux dire, pas que la violence serait apparue dans le Donbass, parce que tout le monde sait bien que
mais qu'il y a une escalade de cette violence à ce moment-là. Il y a, en fait, c'est quelque chose avec un timing très particulier, qui intervient à des moments extrêmement clés. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux et sur des émissions de Russia Today ou des émissions de chroniqueurs russes comme Salafiov, on va se mettre à discuter des armes de destruction massive parce que Volodymyr Zelensky a publié un tweet en disant que l'Ukraine avait des doutes par rapport au mémorandum de Budapest qui justement était sur le retour des têtes nucléaires qui étaient localisées en Ukraine vers la Russie au moment où l'Ukraine est devenue indépendante. Et on va avoir cette tendance dans l'espace informationnel à avoir beaucoup d'opérations qui vont dépeindre l'Ukraine comme étant extrêmement agressive, comme voulant utiliser une arme nucléaire. C'est quelque chose qui après a été repris dans les négociations que le Kremlin menait et que les parlementaires de la Douma ont mené entre eux. Et c'est quelque chose qui est utilisé pour créer quasiment un casus belli. Et pour justifier son entrée en guerre avec des choses qui sont des preuves qui n'existent pas, c'est quand même quelque chose d'extrêmement nouveau.
Mathieu Kenningham, vous...
Oui, en fait, ça prépare les terrains. Ça prépare les terrains dans l'audience et dans la population russe, mais aussi en dehors. Et donc voilà, c'est un peu ça, et on a vu comme il y a eu un escalation de narrative qui venait avec certains épisodes importants qui sont passés. Je pense Valentin peut-être tu es...
Il y a en fait avant la déclaration de l'évacuation des civils du Donbass, il y a deux épisodes auxquels nous on s'est intéressé. Il y a d'abord le bombardement d'un jardin d'enfants à Luhansk, et c'est extrêmement tragique. Mais la façon dont ça a été interprété dans les médias russes...
C'est le 17 février.
Exactement. Ce bombardement, on ne sait pas qui en est à l'origine. C'est sur un jardin d'enfants qui est en fait à la frontière entre la République autonome et l'Ukraine. Bien sûr, les Russes accusent les Ukrainiens et les Ukrainiens accusent les Russes. L'OSCE qui s'est rendu sur place n'a pas été capable de déterminer qui a en fait été à l'origine de cette attaque. Mais c'est suffisant pour la Russie de dire qu'il y a une escalade. Et le second incident... c'est lié à une vidéo qui a été publiée sur la chaîne Telegram de Denis Pushilin, qui est le chef de la République autoproclamée de Donetsk. Et cette vidéo, elle montre des échanges de tirs entre ce qu'on suppose être des séparatistes pro-russes du Donbass et des soldats soi-disant polonais qui protégeraient des réservoirs de chlore et qui essaieraient de préparer une bombe chimique, une arme chimique. Et en fait, en s'intéressant à cette vidéo, on se rend compte qu'elle a été prise il y a plusieurs années, qu'elle a été éditée, montée, qu'elle a été publiée a posteriori. Et le 18 février, vous avez deux vidéos qui sont publiées sur les deux chaînes Telegram des chefs des républiques, qui invitent à évacuer la population civile. En étudiant ces vidéos, on se rend compte qu'en fait, elles ont été enregistrées 2-3 jours auparavant et que la façon dont elles ont été publiées dans les médias a été séquencée. J'ai pas envie de dire que le Donbass n'était pas une zone extrêmement sous tension à ce moment-là, mais en tout cas pour dépeindre une situation d'urgence qui ensuite, j'ai envie de dire, prépare le terrain pour le Kremlin à se saisir de la situation en tant que puissance limitrophe.
Alors ensuite, si on étudie un peu plus en détail ce qu'il raconte vraiment, donc il y a des récits qui sont diffusés à ce moment-là. Donc ça, c'est la montée en puissance. Mais en fait, vous les typologisez, vous les rangez dans 5 grandes catégories de récits dont on va parler. Donc voilà, globalement, il y en a 5 principaux. Le premier, c'est la Russie veut la paix. Le deuxième, je ne fais pas ordre d'importance. Hein. La deuxième, c'est la Russie a une obligation morale de faire quelque chose pour sécuriser la région. Le troisième, c'est l'Ukraine est l'agresseur. Le quatrième, c'est l'Ukraine est une marionnette de l'Occident. Et le cinquième, c'est les Occidentaux créent des tensions dans la région. Donc c'est intéressant parce que ces 5 récits, ces 5 justifications, en fait la question que je me suis posée en lisant ça, c'est que je me suis demandé à quel point c'était cynique, à quel point c'était calculé. Parce que en fait, la justification, tous les États du monde justifient d'une certaine manière ce qu'ils font. Je veux dire, tout le monde a besoin de donner un récit pour ce qu'on fait. Les États-Unis ont un récit sur pourquoi ils aident l'Ukraine. L'Ukraine a un récit sur pourquoi elle résiste. Tout le monde a un récit et une justification. Et ce qui est intéressant, c'est que vous distinguez ces 5 grands récits. Et la question, c'est à quel point est-ce que c'est en quelque sorte une traduction organique de ce que les Russes pensent d'eux-mêmes et de la manière dont ils conçoivent les situations, et dans quelle mesure est-ce que c'est des récits qui ont vraiment été poussés, qui ont été timés, qui ont été orchestrés en quelque sorte, pour amener à une justification, une légitimation de l'intervention à partir du 24 février. Mathia Caniglia ?
Donc en fait, ce qu'on sait, c'est que la façon dans laquelle on arrive à cette récit, c'est qu'il y a de briefing entre le porte-parole de Poutine, les représentants, les éditeurs, le média principal en Russie, et le porte-parole, il dit quelles sont les priorités pour cette semaine. Donc pour l'État russe, les priorités sont A, B, C, D.
Comment est-ce qu'on le sait, ça, qu'il y a eu ces briefings?
Parce qu'on a des sources, mais ce ne sont pas sources ouvertes. Et donc voilà, c'est aussi un peu notre travail de travailler sur les sources ouvertes, mais quand même c'est pour ça qu'on a des gens qui connaissent la Russie, qui connaissent l'espace post-soviétique pour être capable de voir ce genre de renseignement qui, c'est pas tout à fait aux int, mais c'est des renseignements plutôt. Mais ça, on le sait, il y a des rapports qui sont publiés. Ça veut dire pas que c'est automatique que les Kremlin disent ça, c'est la priorité, et donc tous les mondes suivent, mais on pourra dire que pour comme l'espace médiatique russe a évolué pendant les dernières 20 ans, le média principal en Russie, ils ont bien appris à comprendre quelles sont les priorités de l'État, quelles sont les priorités du Kremlin, et à les transmettre dans leur travail éditorial.
Et par ailleurs, comment est-ce que ça s'articule, ces récits, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, de l'intérieur par rapport à l'extérieur? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les mêmes récits qui sont pour un public domestique, qui sont pour un public intérieur? Par exemple, moi j'ai été étonné de voir que dans ces 5 récits-là, il n'y avait pas le truc des nazis, quoi, et des armes de destruction massive, parce que je ne sais pas si c'est pour l'Occident en général ou si c'est juste pour la France. C'est un truc qu'on a retenu, parce que ça paraissait tellement délirant. L'histoire des nazis qui auraient pris le contrôle de l'Ukraine depuis 8 ans, qu'on l'a retenu, quoi, qu'on l'a gardé en tête. Donc, c'est-à-dire, dans quelle mesure, est-ce que c'est des récits qui diffusent de manière un peu indifférente et il y a des choses qui prennent à domicile et des choses qui prennent à l'extérieur? Ou est-ce qu'il y a certains récits qui sont clairement plutôt poussés vers l'extérieur et d'autres récits qui sont plutôt à finalité d'un public domestique? Valentin Châtelet?
En fait, ça pose la question de savoir est-ce que les narratifs utilisés au sein de la Russie sont exportables à l'étranger. Et il y a un public pour ça. Il y a un public qui est prêt à entendre toutes les théories complotistes et qui est prêt à entendre les théories de la Russie sur que l'Ukraine est nazie, etc. J'ai envie de dire que ce type de narratifs sont inclus dans des campagnes de désinformation qui sont en général de moins bonne facture, où est la traduction automatique. Et donc, c'est des récits qui marchent et qui sont publiés, mais c'est en général pas la façon dont la Russie va essayer de s'attaquer à un auditoire à l'étranger. Et elle articule les récits de manière différente, notamment en Ukraine et à l'extérieur avec les pays voisins, pour avoir un agenda politique toujours. C'est-à-dire qu'il va y avoir des poussées au moment où il y a des négociations pour envoyer de l'armement en Ukraine, avec des narratifs qui vont dire que l'Ukraine revend des armes occidentales et que c'est devenu une place d'armes pour le trafic d'armes illégales. Il va y avoir des narratifs qui vont être poussés en Pologne, dans les pays limitrophes, pour dire que les réfugiés ukrainiens sont des voleurs, pour dire que l'insécurité augmente. Et il y a en fait des auditoires qui sont identifiés par la Russie, sur lesquels elle essaie de concentrer ce genre de discours. De manière plus globale, il y a d'autres façons dont les campagnes des informations russes fonctionnent, mais uniquement sur la question de la guerre en Ukraine, c'est une façon de détourner l'attention des choses qu'elle peut commettre elle-même. C'est-à-dire que, afin de ne pas avoir à faire face, par exemple, aux accusations de crimes de guerre qui sont commis, la Russie va pousser, va faire émerger des discours alternatifs, notamment sur Boutcha, et elle va cibler des auditoires qui vont être extrêmement sensibles. Et elle va utiliser des méthodes qui sont tout à fait questionnables, mais il y a des terrains qu'elle sait exploiter, et c'est comme ça qu'elle se permet de créer cette espèce de bruit de fond.
Tout à fait d'accord, mais je voulais rajouter une chose. En fait, oui, on a identifié 5 récits généraux depuis 2014, mais on voit aussi dans ce rapport comme ces 5 récits en général évoluer dans de sous-discours, dans de sous-récits, dans lesquels on trouve aussi les discours sur la présentation de l'Ukraine comme naziste, etc., etc. Mais vraiment, c'est ça qui ça montre le travail.
Mais c'est intéressant parce que c'est pas parce que c'est le truc qui, moi, m'a frappé. Enfin, je pense que je suis pas le seul, que c'est le plus important. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a un vrai apport du rapport. C'est que vous le quantifiez. C'est qu'il y a le nombre d'articles, la manière dont ils sont repris, la manière dont certains deviennent viraux ou pas, et dont ils infusent plus ou moins directement. Les nazis, c'est très identifiable parce que ça a l'air délirant. Il y a d'autres choses sur le fait que, bah en fait, c'est les Occidentaux qui menacent la sécurité de la région. C'est pas parce que ça peut imprégner les discours d'une manière plus générale sans que ce soit aussi directement traçable que des choses qui sont des récits très identifiables parce que très extravagants.
Mais en tout cas, par exemple, on prend les cas de les récits sur l'Ukraine naziste. C'est quelque chose qui ça marche très bien avec le public russe, mais ça marche très bien aussi dans certains contextes étrangers. Je veux dire, en Allemagne, à les États-Unis. Imaginez avec le problème qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'extrémisme interne à les États-Unis et tous les problèmes qu'il y a avec, on dirait, l'extrême droite violente encore plus. Et ça, c'est quelque chose qui, quand même, trouve une caisse de résonance aussi dans des autres contextes. Et c'était la même chose pour certaines narratives sur la faute, c'est de l'OTAN. Et la faute, c'est de l'OTAN, c'est un narratif qui, par exemple, dans pays qui ont traditionnellement, déjà en Russie, ça marche très bien, mais à l'extérieur aussi, il y a des pays comme l'Italie, dans lesquels il y a une forte tradition anti-OTAN, où cette récit a eu un très bon succès. En fait.
Et vous voyez, c'est pour ça que je posais tout à l'heure la question de la sincérité, c'est que de tout ce qu'on en sait, pour autant qu'on en sache quelque chose, c'est quelque chose dont Vladimir Poutine est lui-même persuadé, que tout est de la faute de l'OTAN, que c'est l'OTAN qui est arrivé à ses portes, etc. C'est-à-dire, c'est difficile de... Sans doute que dans la mise en œuvre, dans la mise en musique presque, j'ai envie de dire, il y a une dimension cynique, mais dans quelle mesure est-ce que c'est pas quelque chose dont ils sont eux-mêmes sincèrement persuadés que je sais pas, il y a des nazis en Ukraine, ou que la guerre, c'est de la faute des visées expansionnistes de l'OTAN qui ne cherchent qu'à pouvoir frapper Moscou à portée de missiles de croisière. C'est des choses qui sont dites, c'est des récits qui ont été diffusés dans les médias. Est-ce qu'ils y croient pas eux-mêmes, dans le fond ?
Ouais, mais pour comprendre, pour avoir la réponse à cette question, c'est important aussi de regarder le modus operandi avec lequel on fait la diffusion de certains récits. Il y a donc dans les cas où les modus operandi pour diffuser ces récits, c'est en fait inauthentique. C'est ça, c'est les termes techniques qu'on utilise pour la diffusion de certains contenus online, surtout sur les réseaux sociaux. C'est inauthentic behavior, comportement inauthentique d'un compte, d'une page, etc.
Mais c'est vrai. On met des fausses pages, on fait des faux réseaux, on s'arrange pour aussi, un truc devient viral.
Et aussi la coordination, un truc qui devient viral, pas normalement, mais avec des méthodes de inauthentic coordination, coordination inauthentique. Bah donc ça démontre qu'il y a en fait, peut-être pas tout le monde est vraiment convaincu de certains récits, que certains récits sont véritables.
Dernière chose, parce que c'est intéressant toujours sur ce premier rapport, il y a, je ne sais pas si ça m'a étonné, mais ce qui était tout à fait fascinant, c'est que vous avez montré que ce qui publie le plus de très loin, c'est des articles censément factuels, quoi, enfin, théoriquement qui rapportent des faits, mais ce que vous montrez très bien, c'est que dans cette montée en puissance juste avant l'invasion, en fait, ce qui est devenu le plus viral sur Facebook et sur Twitter, c'est beaucoup plus ce qu'on appellerait des éditoriaux, vous appelez ça des opinion pieces, des op-eds, ce qui est pas forcément... c'est ça le plus rentable, en tout cas c'est ça qui à ce moment-là, a fonctionné le mieux, l'opinion presque du domaine de la conviction, hein, parce que c'est ça les éditoriaux, ça prend une certaine distance par rapport aux faits bruts. Comment est-ce qu'on explique ça? Qu'est-ce que ça nous dit peut-être aussi de ces mécanismes de viralité?
En fait, je trouve que ça joue un peu. Et ça marche très bien aussi parce que ça joue un peu avec les systèmes démocratiques dans lesquels on vit. Parce que c'est toujours une opinion. Et en fait, chez nous, dans la démocratie, on ne veut pas criminaliser une opinion. On doit présenter des argumentations pour la combattre. Et ça, c'est compliqué, ça prend du temps. Et encore une fois, les timings, c'est super important. Aujourd'hui, je publie une pièce d'opinion publier une piste d'opinion qui en fait présente des argumentations pour dire en fait c'est qui le mec a dit, c'est pas vrai, etc. Ben, c'est pas facile. Et ça prend du temps. Et
C'est plus facile de dire que quelque chose qui est présenté comme factuel n'a pas eu lieu. Bon, maintenant plus facile, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, il n'y a pas le... J'allais dire la licence poétique. En tout cas, l'idée que c'est... Après tout, c'est l'opinion de quelqu'un, donc même s'il fait quelques erreurs, c'est pas grave, puisque c'est une opinion. Si quelque chose est factuel, c'est factuel ou ça l'est pas, alors qu'on laisse une certaine liberté aux éditorialistes, en tout cas.
Mais en tout cas, on retourne sur la question des méthodologies, parce qu'en fait, on essaye, et ça c'est quelque chose qui passe seulement la DFR Lab, on fait du travail en travaillant avec l'Union Européenne, qui en ce moment-là est l'entité qui est plus dans les mondes, essaye de régulariser ce que c'est la désinformation, de trouver de définitions qui sont partagées et tout. Et c'est pour ça que la définition de désinformation, c'est pas seulement lié au contenu, mais c'est lié aussi à les méthodologies qui sont employées pour faire de la désinformation. Et donc, encore une fois, on retourne, et ça, c'est vraiment la nature de notre travail. Comprendre le modus operandi et, par la compréhension du modus operandi, être capable de combattre ce phénomène et de le comprendre encore plus.
Наші хлопці під Херсоном москалів ганяють, і під Хаймарс Арінгтон їх в пекло відправляють, і під Хаймарс Арінгтон їх в пекло відправляють. Не потрібні тим уже пралки унітази, думають лиш як втікти. Вражі її зарази, думають лиш як втікти, вражі її зарази. Кепські справи у Русні, там де тонко рветься відповісти за гріхи, скоро доведеться відповісти за гріхи, скоро доведеться.
Ensuite, on passe naturellement à la deuxième phase, au deuxième rapport, qui est donc celui qui s'intitule Undermining Ukraine, donc décrédibiliser ou saper les bases de l'Ukraine. How the Kremlin employs information operations to erode global confidence in Ukraine. Donc, comment le Kremlin emploie des opérations informationnelles pour éroder, affaiblir la confiance du monde en l'Ukraine. Alors, il y a évidemment énormément à dire. C'est quelque chose qui est par ailleurs en permanente évolution parce que, voilà, là, le corpus n'est pas clos. Mais je pense qu'une solution, ce serait peut-être de procéder par cercle concentrique et par cible, en fait. Parce que ce que vous indiquez très clairement, c'est que la cible, avant tout, la première, c'était les Russes. À l'origine, et ça, s'est passé notamment, mais c'est intéressant, par le premier truc qui s'est refermé au moment de l'invasion, c'est les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, en Russie. Je sais pas qui... Valentin Châtelet ?
Parce que les réseaux sociaux sont un peu le seul vecteur d'information alternative en Russie. C'est-à-dire que aujourd'hui en Russie, les Facebook et Twitter sont interdits. Alors, ils sont interdits de manière formelle, ils sont ralentis et ils sont quasiment impossibles à naviguer avec vos terminaux. Et ça prouve surtout que pour pouvoir contrôler cette intervention armée, il faut déjà contrôler sa propre population. Sans doute que ça indique déjà que la Russie a voulu recentrer l'espace informationnel sur ce qu'elle était capable de produire elle-même et sur les contenus qui étaient déjà produits par ses rédactions. Je pense que ça fait aussi un peu écho à la façon dont on a créé un espace, une bulle informationnelle en Russie autour de cette question de la guerre qui n'est pas une guerre en Russie. C'est une opération militaire spéciale. C'est cette espèce de marketing autour de la lettre Z. Parce que dans la perception du Kremlin, on ne fait pas la guerre. On est pour la Russie, on est pour la paix. C'est ce que signifie ce Z qu'on affiche partout. Et ça donne lieu à toutes sortes de symboles que on peut utiliser pour légitimer les informations qu'on va publier.
Mais alors, on va revenir sur cette opération Z parce qu'elle est intéressante et c'est une sorte de réponse à une question qu'on s'est beaucoup posée au tout début de la guerre. Mais simplement pour dire, vous indiquez qu'il y a d'autres choses qui sont apparues. Donc il y a eu un renfermement de Facebook et Twitter. Il y a tout ça passe beaucoup par Telegram en Russie, mais d'ailleurs c'est aussi ce qui fait que je sais pas, d'ailleurs vous allez me dire, mais que c'est pas forcément facile à investiguer parce que les chaînes Telegram, ça peut être plus ou moins privé, donc c'est peut-être plus difficile d'avoir une sorte de vision globale de ce qui se passe sur un réseau qui est d'ailleurs plutôt une succession de canaux comme Telegram que sur quelque chose qui est vraiment, pour le coup, réseau centré comme Twitter ou Facebook, où on peut faire des recherches, où on peut capter de la data, etc. Donc voilà, comment est-ce que vous avez navigué dans tout ça? Comment est-ce que vous avez, si c'est tant que c'est possible d'ailleurs, essayé d'avoir un tableau de ce qui se passait sur Telegram en Russie?
Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de des experts qui connaissent la culture, la situation sociale, etc. Parce que pour trouver les chaînes privées sur Telegram, il faut utiliser les mots-clés, il faut connaître un peu le langage et les récits utilisés dans certaines ambiantes. Et donc c'est comme ça, mais tout à fait, on a recherché Telegram, c'est pas facile du tout. Je pense que Valentin, qui s'occupe aussi de ça, il peut un peu plus nous aider à comprendre comment on fait.
Sur le premier rapport, on n'a pas investigué Telegram parce que c'était, comme vous l'avez dit, une API privée. Il y a des chaînes qui sont pas ouvertes au public et c'était quelque chose qui nous paraissait déjà assez conséquent de pouvoir analyser le corpus d'articles dont on disposait. Mais Telegram, ça reste l'outil principal de la diffusion de l'information en Russie et on s'y intéresse toujours et c'est quelque chose qui est fondamental parce qu'il y a quand même des réseaux d'information et de désinformation sur Telegram. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que ça donne lieu à des cartographies très particulières avec des groupes qui sont coordonnés de telle façon qu'on sait qu'ils font partie de campagnes désinformationnelles. On a publié un article il n'y a pas très longtemps sur des groupes pro-Kremlin. C'est un article qui a été publié par ma collègue Nika Alexeyeva qui a dirigé le premier rapport, sur des chaînes de traduction automatique sur Telegram d'informations russes. Et vous avez des chaînes en arabe, en chinois, en anglais, en français, qui ne se présentent d'ailleurs pas comme des chaînes russes. mais qui vont publier du contenu qui va être publié de Russia Today, qui vont simplement traduire automatiquement, qui vont parfois publier simplement des nouvelles complotistes et parfois des nouvelles dans la langue locale.
Mais comment est-ce qu'ils contrôlent, puisqu'on a dit qu'il y a eu un renfermement sur Facebook et Twitter, mais Telegram, le propos, c'est que si pour vous c'est difficile de l'investiguer, ça doit être compliqué aussi pour le Kremlin de contrôler, de le museler. Comment est-ce qu'ils réussissent ou pas à avoir on passera évidemment aux opérations extérieures, mais sur un plan domestique, pourquoi est-ce que Telegram n'est pas, d'ailleurs, je suppose, mais un vecteur de contre-discours, un vecteur de résistance politique vraiment affirmé en Russie?
Je pense que c'est quand même un vecteur de discours contre-politique, parce que sur Telegram, si vous avez une chaîne Telegram, il n'est pas nécessaire pour vous de donner votre identité ou d'avoir un utilisateur que tout le monde peut connaître et donner votre numéro de téléphone. Donc la Russie n'est pas forcément, enfin le Kremlin n'est pas forcément en mesure de savoir qui est derrière. Maintenant, Telegram, c'est une application qui a été créée par Pavel Durov, qui a aussi travaillé avec Vkontakte et qui est en fait l'équivalent du Facebook russe. Et donc, on sait qu'il y a en fait de la porosité entre ces organisations, entre cette personne et les autorités.
Et aussi, c'est-à-dire que si vous voulez faire un discours anti-Poutine, quand bien même vous auriez plein d'assurances que Telegram est très privé, c'est pas forcément quand même là que vous iriez balancer ce genre de discours?
Pas tellement. Aujourd'hui, en fait, et c'est sur ce quoi l'Office des télécommunications en Russie essaie de travailler, c'est le blocage de YouTube. C'est que les plateformes occidentales sont en fait de gros vecteurs d'informations contre la guerre.
Ils ont réussi à bloquer Facebook et Twitter, mais ils ne réussissent pas à bloquer YouTube?
Ils essayent. Il y a des plaintes qui sont déposées au Roskomnadzor, qui est l'autorité des télécommunications en Russie. Et ils essaient de le bloquer parce que, si vous regardez les contenus en russe qui sont les plus publiés, les plus consultés, ce sont des contenus qui sont liés au contenu d'opposition. Donc Alexei Navalny, que ce soit le fonds anticorruption russe, il faisait des milliers de vues, des millions de vues sur les enquêtes sur le manoir de Poutine et sur les enquêtes anticorruption qu'il faisait. C'est toujours le cas. Et c'est toujours des plateformes sur lesquelles ils sont extrêmement prominents. Mais la Russie essaie d'avoir, j'ai envie de dire, le contre-pied de ça. C'est-à-dire qu'en prévision de ce blocage-là, elle essaie de faire en sorte que Routube, son espèce d'alternative à YouTube, soit monétisable, qu'il y ait du contenu dessus. Elle paie des influenceurs qui peuvent utiliser cette plateforme-là pour essayer de faire un minimum de contenu, de faire du stream, et d'utiliser la plateforme de YouTube de façon à pouvoir un peu plus en vivre, même si ce n'est pas du tout dans les mêmes proportions.
Je pense que c'est aussi important dans ce contexte de dire qui cette idée d'enfermer l'internet qui est en réalité en Russie, ça représente un peu aussi les combats qui est en cours aujourd'hui entre deux modèles de évolution de l'espace informationnel. Et donc, d'un côté, on a l'Occident, et on peut dire qu'il y a aussi dans l'Occident, il y a des approches différentes. Donc, on a l'Europe qui va créer une législation pour normer, créer des normes qui rendront l'espace informationnel plus sûr pour la démocratie, en permettant que la démocratie se développe. On a les États-Unis qui ont une approche un peu plus capitaliste, donc on ne veut pas trop régler toutes les choses, mais plus les lasser au développement du marché. Mais de l'autre côté, il y a les modèles russes, il y a les modèles chinois, et aujourd'hui, on combat en bataille sur qu'est-ce que les autres pays dans le monde vont choisir comme modèle.
Je vais dire, sur cette question-là du renfermement russe d'Internet, en fait, c'est pas facile pour eux du tout, parce que je peux renvoyer aux travaux de Kevin Limonier, qui est déjà passé par ce podcast, parce qu'en fait, il y a plein de points d'accès différents en Russie. C'est beaucoup plus difficile de contrôler les points d'accès en Russie que dans d'autres pays, notamment la Chine, parce que c'est un Internet qui a été très ouvert et qui est plus difficile à refermer. Et justement, maintenant, on passe... Là, c'est en quelque sorte l'écosystème, la manière dont ça a fonctionné. Si on regarde un peu, vous détaillez un certain nombre d'opérations qui sont assez fascinantes de récits, de narrations de la Russie pour influencer l'opinion domestique et puis surtout internationale. Alors, cette opération Z, il faut peut-être en reparler, parce que vraiment, c'était un truc, c'était vraiment l'énigme des premiers jours, même avant l'invasion. Tout le monde se demandait ce que c'était Z, mais il y en a des références à la victoire de 1945. Certains disaient que c'était un 7-7. Enfin bon, il y a eu toutes sortes de théories. On s'est vraiment creusé la tête pendant des jours et des jours. Et en fait, vous montrez dans le rapport, les rapports, qu'en fait, c'était globalement une opération de branding, quoi. Marketing, quoi, très commercial, d'avoir un symbole pro-russe assez facile qui soit sur tous les chars qui allaient immanquablement défiler à Kiev incessamment sous peu après le 24 février, et que c'était ça en quelque sorte le sens de cette opération, c'est bien ça, Vincent Châtelet ?
C'est tout à fait une opération de marketing de la part de la Russie. En fait, la lettre Z, c'est, on la retrouve dans l'expression que Vladimir Poutine a utilisée dans une intervention qu'il a faite à Loujniki, qui était un espèce de stadium. C'est arrivé un mois après le début de l'invasion de la Russie, lorsqu'on a essayé de célébrer une fois de plus le rattachement volontaire, bien sûr, de la Crimée à la Russie. Et il y avait cette phrase « «За Россию», » pour la Russie, « «За победу», » pour la victoire, « «За мир без нацизма», » pour un monde sans nazisme. Et c'est de là d'où vient l'utilisation de cette lettre Z. Mais il y a d'autres lettres qui sont utilisées. Vous avez le V de SVO pour Opération Militaire Spéciale. Ça fait partie en fait d'un écosystème avec toutes sortes de termes qui essaient de décrire la réalité telle que le Kremlin veut que sa population l'aperçoive. Il y a cette... la lettre Z et la lettre V sont aussi utilisées parce que ça fait référence à une phrase d'un film extrêmement connu en Russie. Et la phrase, c'est « «Moi, je pense que la force est dans la vérité». ».
Une autre opération, donc ça c'était peut-être une des premières, une autre dont il faut peut-être reparler, parce qu'elle a demandé de manière évidente du travail et de la coordination, c'est un certain nombre de deepfakes, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui des deepfakes, c'est-à-dire des vidéos créées en quelque sorte de toutes pièces, notamment de Zelensky, qu'on voit apparaître en gros dès la mi-mars, je crois, où Zelensky, c'est des vidéos où on voit Zelensky apparaître demandant aux Ukrainiens de déposer les armes, évidemment donc générées par ordinateur. Assez mal faite, je crois qu'on peut le dire, et puis surtout immédiatement démentie, notamment par Zelensky. Alors comment est-ce que c'est apparu ça? Comment est-ce que ça a été en quelque sorte orchestré par la Russie, si tant est qu'on le sache?
Donc en fait, déjà, je pense qu'on pense que ça sert à mieux de parler de cheap fake plutôt que de deep fake. Mais encore une fois, l'impact qui est même de deep fake qui sont pas bien faits, donc c'est pour ça qu'on l'appelle cheap fake, se peut avoir sur un audience, et c'est dévastante. Parce que ce qui est important, c'est le timing, encore une fois. Le bon timing, même avec un deepfake, fait pas trop bien, ça va avoir un impact dévastant. Et donc c'est ça qu'on a vu, mais ce n'est pas le seul cas. On a vu aussi dans les contextes, on en parlera plus après peut-être, mais dans les contextes de la campagne de désinformation qu'il a aussi amené dans les contextes de la Pologne. Il y avait la diffusion d'une vidéo marquée comme BBC, dans lesquelles en fait le présentateur il disait on a eu la nouvelle les Polonaises ils vont envoyer des militaires dans les territoires ukrainiens pour occuper de certains territoires ou des tours de Liev parce qu'ils sont en cours, c'est en cours un processus pour rendre Liev un protectorat polonaise. Et ça venait dans les cas tout en campagne de désinformation qui était partie par une falsification d'un document, et la production d'une carte géographique qui en fait montrait les plans de les militaires polonaises pour envoyer des militaires dans ces territoires ukrainiennes. Et donc c'était seulement là, ça rentre dans une stratégie un peu plus grande.
Oui, tout à fait, mais alors c'est là que c'est très intéressant, c'est que ça c'est des trucs, donc cheap fake est bien trouvé, mais du coup ça ne marche que sur des esprits qui sont déjà très prêts à croire, et c'est là que le côté massif en quelque sorte de la préparation de l'opinion, en fait des opérations informationnelles, joue quelque chose, parce que ça crée en quelque sorte un environnement, et puis un public captif, qui peut être touché par ces trucs même de très mauvaise qualité, parce qu'ils sont déjà en quelque sorte prêts à croire.
Mais c'est tout à fait ça. Il faut comprendre que la désinformation, ça marche aussi parce qu'ils agissent sous une vulnérabilité. Et, Et dans les cas de le deepfake de Zelensky, il faut dire aussi que c'était les paris russes à ces moments-là, c'était de marcher sur Kiev dans 48 heures. Et donc, dans ce cadre opérationnel-là, cette opération informationnelle, ça marche très bien parce qu'on va détruire les morales des gens. Ils n'auront pas le temps pour réagir à ça parce que pour le temps qu'ils n'ont pour réagir à ça, on marchera déjà sous Kiev.
Ouais, c'est la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. Mais ça n'avait pas vocation à remplir le vase, mais ça peut le faire déborder en quelque sorte.
Bah, oui, on peut dire ça.
Et enfin, juste une dernière opération dont j'aimerais parler une seconde, après on continuera à parler des différents publics, mais parce qu'elle est très représentative, c'est que vous avez déjà fait référence au cas de Boutcha, donc le massacre qui est découvert plus ou moins en avril, et donc à ce moment-là, la diffusion d'un certain nombre de récits, de contre-récits plutôt russes, pour donner d'autres explications, et donc vous montrez très bien que c'est pas qu'il soit très crédible, très intéressant, très sourcé, c'est juste créer ce que vous appelez du media noise, c'est-à-dire du bruit médiatique, c'est-à-dire ça n'a pas vocation à convaincre ou pas tellement, c'est juste créer de la confusion pour que des preuves qui devraient être accablantes normalement deviennent, deviennent une pièce dans une guerre de récits, quoi.
Globalement, oui, puis je pense qu'il y a aussi des gens qui... Je pense qu'il y a des gens qui y croient. Je pense fondamentalement qu'il y a des gens qui y croient. Après, oui, c'est... Ce ne sont pas des analyses de bonne facture non plus.
Mmh. Ça, on peut le dire, il suffit de le retrouver, hein, de retrouver ces trucs-là. Il y avait les trucs du rétroviseur, des cadavres...
Tout à fait, les cadavres qui bougent tout seuls. Bon. Mais bon, j'ai pas grand-chose à en dire, honnêtement.
Ouais, faut avoir envie d'y croire pour y croire.
Oui, non, mais en général, Valentin parlait de ça avant, c'est vraiment l'inondation de l'espace informationnel pour créer du bruit. Et ce n'est pas la première fois qu'il s'est passé. En fait... C'est intéressant de voir comment la stratégie, ça change, indépendant du contexte, dans le sens que quand la Russie se trouve devant à des choses qui est vraiment difficile à changer les récits dessous, et donc il commence avec une autre stratégie. Donc on n'essaye pas de créer notre récit sur ça, on essaye seulement de créer de la confusion, d'inonder l'espace informatique avec des autres informations, et informationnelles, avec des autres informations, mais on n'essaye pas de créer un récit, parce que c'est déjà trop tard. Et donc ça va pas avoir la même efficacité, mais tout à fait, c'est quelque chose qu'ils ont fait des autres circonstances.
Alors... Ensuite, si on regarde, donc ça c'est en quelque sorte des opérations qui ont été pour un public assez large, enfin en tout cas c'était des... C'est vraiment l'opération qui est intéressante, mais ce que vous montrez dans le rapport notamment, c'est qu'il y a des opérations qui sont aussi tout à fait ciblées, et notamment un cas que vous étudiez en particulier, c'est la Pologne. Alors c'est intéressant la Pologne, parce qu'on y pense trop rarement, en tout cas étant donné le contexte de son réarmement, mais la Pologne est évidemment un pivot du soutien à l'Ukraine, parce que c'est par la Pologne que passent à peu près toutes les armes qui arrivent, occidentales qui arrivent en Ukraine, qui par ailleurs elle-même en a donné beaucoup. Donc expliquez-nous peut-être comment les Russes s'y sont pris, ou s'y prennent d'ailleurs toujours, pour essayer d'affaiblir, si ce n'est l'alliance ukraino-polonaise, en tout cas le soutien polonais à l'Ukraine.
Oui, tout à fait. La Pologne, c'était vraiment les cibles par excellence, un peu... de la désinformation russe dans les contextes européens. Et dans les rapports, on présente en fait très tous des cas. Et un sur la Pologne, l'autre sur la France, et un autre encore sur la Géorgie. Et dans les cas de la Pologne, donc pendant l'invasion de l'Ukraine, la Russie a ciblé la Pologne avec l'objectif, en fait, comme vous disiez, de miner l'alliance de l'Ukraine. Il y a eu une campagne de désinformation sur un supposé plan polonais, comme je disais avant, d'occuper des territoires ukrainiens, mais c'était surtout fait pour dévier l'attention. Donc l'objectif là, c'était de dévier l'attention des gens, c'était pas vraiment convaincre l'audience polonaise ukrainienne qu'il y avait quelque chose comme ça, mais c'était de créer des confusions, aussi pour créer des confusions sur les efforts politiques que la Pologne, à l'époque, était en train de mener pour on dirait, unifier un peu les frontes européennes et occidentales. Parce que c'était comme ça, surtout dans les premiers moments de l'invasion. Et la chose intéressante est qu'aussi ici, on a, pour retourner encore une fois sur les modus operandi, sur les méthodes, aussi ici on a trouvé les Russes ils ont beaucoup utilisé la méthode de la falsification. Et donc, comme je disais avant, ils ont créé cette carte falsifiée pour la création d'un buffer zone entre...
En gros, c'est un faux plan sur les Polonais auraient l'intention d'intégrer la région de Lviv, quoi. Donc l'ouest ukrainien qui est sous influence polonaise, qui a appartenu à la Pologne et au Grand-Duché de Lituanie à une certaine époque. Bon, ça part pas de nulle part, ça part du fait que c'est une région qui a pu se trouver dans une orbite polonaise à certains moments, mais ça a été présenté comme l'idée que la Pologne a l'intention de récupérer cette zone, et donc les Ukrainiens feraient bien de se méfier des intentions sinistres des Polonais.
Je crois que sur cette question-là, c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on a dit que la Pologne voulait créer des protectorats qui seraient sous son influence parce que l'Ukraine n'était pas capable de gérer ses territoires occidentaux, donc on a aussi voulu simplement saper aussi l'autorité des Ukrainiens sur leur propre territoire.
Et en plus, ce qu'on a trouvé en étudiant et en analysant cette campagne de désinformation, c'est aussi que dans ces cas-là, la Russie avait hacké en fait des profils de citoyennes existantes polonaises et utilisant ces profils pour amplifier les contenus sur les réseaux sociaux. Et ça s'est passé sur Facebook notamment, et on l'explique très bien.
C'est-à-dire, cette fois, c'est pas de la viralité un peu cheap avec des faux comptes créés à droite à gauche qui ont deux amis et un faux pseudo. Cette fois, c'est des gens qui existent vraiment, qui ont parfois un vrai rayonnement, une vraie influence, prise de contrôle, enfin, pur hacking quoi, de leur compte, et diffusion de fausses infos.
Oui, et tout à fait, cette différence dans les niveaux de sophistication, ça nous aide aussi à comprendre qui certaines cibles sont plus importantes que des autres. Et sur certaines cibles, on va mettre plus de ressources que sur d'autres. Et on voit dans les cas, par exemple, de la France, ou de la Géorgie, ou de l'Italie, parce que les contextes européens sont différents, les stratégies de désinformation vont être différentes. Pour vous faire un exemple très très clair, en Italie, on n'a pas besoin de faire de grandes campagnes de désinformation, de créer qui sont basées sur la coordination inauthentique, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'on a deux femmes politiques qui vont répéter, en fait, à la télé, les arguments, les récits de la propagande russe, de la désinformation russe. Et donc, ça change un peu. Et ce qu'on a vu en France, en fait, qui est présent dans les tous les cas, c'est qu'en France, par hasard, il y avait des récits un peu différents. Et c'était les récits surtout de les gaz, donc l'Europe va s'églacer sans les gaz russes. Il y avait beaucoup cette récit de l'Ukraine qui révèle les armes envoyées par l'Occident, et notamment cette récit s'était utilisé très très fort, comme on disait au commencement de ce podcast, pendant qu'il y avait la votation sur l'envoi de César en Ukraine. Et
ça, on peut dire, les connaisseurs un peu du microcosme défense française savent que c'est l'inénarrable, je n'aime pas lui faire de la pub, mais c'est Régis de Castelnau, c'était l'intox complète sur les Césars qu'on envoyait, c'était dès juin 2022. Qui aurait déjà été revendu ou capturé par les Russes et qui serait en train d'être démonté pour percer tous les secrets français. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Vous remontez très bien le truc et vous montrez, c'est simplement une info, enfin une intox qui se baladait sur des chaînes Telegram, un peu comme vous le décriviez tout à l'heure, Valentin Châtelet, de trucs qui sont traduits automatiquement, etc. Et ce brave Régis s'est retrouvé au fin fond de cette chaîne Telegram, il était persuadé d'avoir une info absolument exclusive et de première qualité, et du coup il s'est retrouvé à répéter, parce que idiot utile quoi, très idiot, très utile, de cette propagande russe.
Ce n'est pas seulement les idiots utiles, mais c'était aussi les déclarations officielles, voilà, en France, il y a eu aussi l'utilisation de certains canaux diplomatiques officiels russes pour renforcer cette récit. On a amplifié aussi grâce à des organisations pro-Kremlin qui sont actives dans les territoires français. Le conspirationnisme, on a joué un rôle. Et Telegram. Telegram, on a vérifié, et on est parlé dans les tout cas. Sur Telegram, on a vu que l'histoire sur les Césars a reçu 548 000 vues sur différents canaux.
Et c'est beaucoup pour Telegram.
C'est assez beaucoup.
Sur les méthodologies, en fait, sur les questions de la France, en dehors de ce qu'a fait de ce qu'on couvre dans le rapport, vous avez en fait deux jeux qui sont utilisés par le Kremlin, et vous avez des officiels qui vont avoir tendance à criminaliser en fait la France en disant qu'elle fait partie d'un bloc occidental et qu'elle sape les relations qu'avait la Russie avec la France jusque-là. Il y a un exemple assez intéressant de désinformation qui est lié à Dmitry Rogozin. Dmitry Rogozin, c'est le chef de Roscosmos, l'agence spatiale russe, qui a été touché par, soi-disant, un obus de César quand il était à Donetsk en train de célébrer son anniversaire. Et donc, on a extrait, soi-disant, l'obus de sa colonne vertébrale. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit une lettre à l'ambassadeur de France avec l'obus, le fragment d'obus qu'on a extrait de cette colonne.
Ouais, parce qu'un obus dans une colonne vertébrale, ça fait beaucoup.
Non, voilà.
Je suis pas sûr qu'il aurait pu écrire.
Enfin. C'est ça. Et on l'a renvoyé à l'ambassadeur de France et il a accusé la France d'être complètement criminel et complice de crimes contre l'humanité. Ça a été... On a les deux narratifs. On a toujours des objectifs qui sont différents, mais sur des pays avec des objectifs qui sont variés en fonction des temporalités, toujours.
Absolument. Et en fait, ça me rappelle quelque chose qui s'est passé en Italie, pour vous montrer aussi la différence. Donc on a la communication officielle, diplomatique, dans ces cas en France, qui Valentine décrivait très bien. Et on a eu quelque chose de similaire en Italie, avec l'ambassadeur de la Russie, qui écrive une longue lettre à les ministres de l'Intérieur italien pour dire... Et en faisant appel à cette idée que la population russe, que les peuples russes et les peuples italiens sont très proches au niveau culturel, qu'ils sont très bien, etc. Et en faisant une liste de tous les abus qui, selon l'ambassadeur russe, étaient commis contre les citoyens russes et en Italie depuis le commencement de l'invasion de février 2022. Et en fait, cette lettre est devenue virale sur les réseaux sociaux en Italie et est devenue un véhicule de désinformation en fait. Et voilà, encore une fois, on voit comme les récits ça change, la méthode ça change aussi basé sur les différentes réalités, sur les différents contextes. C'était le cas aussi dans ce qu'on a observé dans les sud du monde, spécifiquement en Afrique.
Bon, on va y revenir, mais rassurez-nous. Donc, il est encore possible d'être russe en Italie, on ne se fait pas agresser sauvagement dans la rue tous les jours?
Non, pas du tout. Pas du tout. Pas de soucis.
Bon, on s'inquiétait beaucoup pour les Russes. Enfin, effectivement, il faut peut-être élargir, parce que c'est vrai, vous le soulignez dans le rapport, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit, notamment en France, que l'Ukraine gagne la bataille de l'information, etc., etc. Bon, ce qui était sans doute assez vrai, enfin, dans une certaine mesure, dans les pays occidentaux, hein. Mais ce que vous montrez bien, c'est que c'est pas nécessairement les cibles préférentielles de la Russie, et que les opérations informationnelles russes, elles visent aussi beaucoup, peut-être surtout aussi le reste du monde, en premier lieu l'Afrique. Alors voilà, peut-être dans quel registre, quoi? Comment est-ce que ici sont pris, comment est-ce que le narratif russe, j'ai pas envie de dire s'est imposé, parce qu'on peut pas dire non plus que, à part cas spécifiques comme le Mali, la RCA, etc., ils ont pas non plus voté à l'ONU contre les résolutions ciblant la Russie. Enfin, en tout cas, un certain nombre de pays, ce qu'on appelait dans le temps les Suds, se sont abstenus. Alors voilà, par où est-ce qu'elle est passée? Alors l'écosystème informationnel russe en Afrique, on en a déjà parlé ici, mais en tout cas, quels sont les récits, quelles sont les justifications qui ont pris en quelque sorte pour, par exemple, les pays d'Afrique?
Donc déjà, il faut dire qu'il y a... En Afrique, spécialement, la désinformation a été un parti crucial de la stratégie russe de retour en Afrique qu'on a vu en place on peut dire depuis le 2018. Et, mais déjà à partir de 2014, le média étatique russe on a eu un rôle central dans cette stratégie russe de renforcer son influence en Afrique. Et les récits fondamentaux qu'on a vus, qu'on a vérifiés dans les rapports, ils sont les récits anti-impérialistes, notamment les récits anti-occidentaux, mais aussi une certaine tendance de la partie de médias étatiques russes à se poser comme des sources alternatives. Donc de sources alternatives, on peut dire, à la dictature de sources occidentales, aux francophones, aux anglo-saxons. Et ça, je trouve, c'est très intéressant.
C'est-à-dire jouer sur l'originalité, quoi. On n'écoute plus RFI, on écoute Russia Today, version francophone destinée... Enfin, on en a parlé ici avec Maxime Audinet déjà, mais que Russia Today a basculé beaucoup de ses opérations, désormais interdites en France, vers l'Afrique. Voilà, c'est, en quelque sorte, ça marche aussi là-dessus, sur le fait que bon, c'est un autre récit à ce qui serait un discours hégémonique dominant dans ces pays-là.
Voilà, oui, comme si c'est l'alternative pour la résistance. C'était quand même un récit qui était déjà là pendant les années de la guerre froide. Parce que ce que la Russie a fait en Sud-Afrique, au Mozambique, c'était vraiment de être proche à la résistance. Mais l'autre chose qu'on a vérifié, en fait, aussi en Afrique et à un certain point, il y a eu des blocages sous des médias convertis. Mais à ces moments-là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un changement de comme le monde diplomatique a commencé à interpréter son rôle. Et donc, beaucoup des accounts diplomatiques ont commencé à créer leur champ Telegram régional dans différentes régions de l'Afrique pour amplifier les contenus proclamés. Comme à dire, bah maintenant, si on n'a pas RT, si on n'a pas notre outil traditionnel pour faire de la désinfo, bah, on va dans son autre côté. Et Telegram, l'importance de Telegram dans les dernières années a monté significativement en Afrique.
Est-ce que c'est comparable ? Enfin, je veux dire, c'est un vieux truc un peu idiot de dire anciens médias, nouveaux médias, etc. Mais... Ah bon, est-ce que Telegram a une audience de millions, voire de dizaines de millions de personnes dans ces pays-là, ou est-ce que ça reste inférieur ? Enfin, je veux dire, est-ce que... J'imagine bien qu'il y a aussi une question générationnelle, parce que c'est pas les mêmes gens qui écoutaient RFI et les gens qui ont Telegram aujourd'hui, mais comment est-ce que ça se passe ? Si tant est qu'on puisse en avoir une vision claire ?
Et ça dépend des contextes, je dirais. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de l'Afrique en général. Cet côté-là, il y a des pays de l'Afrique dans lesquels Telegram est plus diffusé, des pays de l'Afrique dans lesquels il est moins diffusé. Mais en général, l'utilisation de l'application est un autre. Si on veut faire une généralisation dans ces cas. Mais en tout cas, en retournant sur les topics de l'Afrique, c'est intéressant de voir comme l'appareil d'influence russe en Afrique s'est basé sur un système assez hétérogène. Il y a des acteurs publics et étatiques, mais aussi des acteurs non étatiques qui agissent directement au par délégation. Et donc, deux fois, il y a une coordination, deux fois il y a une direction qui vient de certaines priorités qui sont des priorités de l'État russe, mais certaines autres fois il n'y a pas. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un changement. Donc comme avant, il n'y avait pas beaucoup de coordination, et à partir de février 2020, il a commencé cet appareil, il a commencé à opérer avec un niveau plus haut de synchronisation et diffusant des récits qui étaient faits sur mesure pour les divers contextes. Et l'objectif, comme en fait vous disiez avant, c'était vraiment d'avoir les pays africains pas de la côté de l'Occident. Et donc il y avait aussi un objectif diplomatique pour aller, en fait, comme on dit dans les titres de les rapports, undermining Ukraine. Donc, isoler l'Ukraine aussi au niveau diplomatique, aussi dans les votations de les Nations Unies et tout ça.
Mais c'est intéressant parce que c'est un peu c'est presque un peu un fil rouge de tout ça. C'est qu'il ne s'agit pas forcément de convaincre, d'acquérir les gens définitivement à la cause russe. Il s'agit de, c'est un mot qu'on a beaucoup prononcé aujourd'hui, mais de mettre de la confusion. Il s'agit de brouiller les pistes, il s'agit de dans quelque chose dont on aurait pu s'attendre à ce que ce soit assez blanc ou noir, c'est-à-dire bon, un pays qui envahit un autre, ça devrait pas plaire quand même à peu près tout le monde dans le monde. Bah, en fait, les opérations informationnelles, rarement elles ont abouti à un narratif de la Russie a raison, mais la plupart du temps, le narratif fin, au final en tout cas, c'est quand ça marche, c'est compliqué, c'est difficile, etc. Et par exemple, dans le cas de certains pays africains, mais vous étudiez aussi certains pays d'Amérique latine, bon, c'est l'abstention. Il ne s'agit pas de voter contre les résolutions de l'ONU, il s'agit de les amener à s'abstenir dans un truc très diplomatique.
Et, tout à fait, et c'est pour ça qu'ils ont eu de succès aussi, parce que c'était pas difficile à faire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un moment dans lequel l'Occident il avait un récit qui c'était pour les autres pays qui n'étaient pas partis de ce conflit, c'était vous devez choisir, vous êtes avec nous ou contre nous. Et pour beaucoup des pays africains, et, ça rappelle un peu la guerre froide. Et donc la réponse est non, mais on ne veut pas vraiment choisir, quoi. On a deux choses à faire avec les Russes et on veut les faire. Et les récits des Russes, c'était bah, vous ne devez pas dire que vous êtes notre ami, mais vous devez juste laisser les choses comme elles sont. On n'a pas besoin de grandes démonstrations comme les autres ils vous demandent. Les choses ils vont mieux comme ça. Et donc ça, déjà, ça crée un désavantage pour nous. Mais c'est intéressant aussi de voir comme la Russie a changé et comme le récit qu'il a employé, ils sont évolués à partir de février 2022 pour toutes les dernières années, en fait. On est parti avec, suivant un récit qui faisait allusion à des conflits passés, comme la Libye ou l'Afghanistan, pour introduire ce concept de double standard, non? De dire comme l'Occident a des double standards pour des conflits qui ne sont pas en Occident et des conflits qui sont en Occident, comme les conflits en Ukraine. Et donc, si vous voulez, un peu de relativisme qui... Pour une certaine audience africaine tout à fait assez efficace et après c'est devenu c'est évolué dans ce récit qui parlait de l'Union européenne et les États-Unis comme de bandits économiques et donc qui jouait aussi un peu avec le nouvel colonialisme basé sur l'exploitation économique Et plus on procédait avec l'opération militaire, plus on est passé à ce qu'on appelle en anglais le whataboutism. Et c'est vraiment les relativismes. C'est comme dire, oui, lui, il a fait ça, mais regarde qu'est-ce que les autres ils ont fait. On dira le récit qui a plus capturé notre attention, en fait, c'est quand la Russie a commencé une campagne de désinformation pour inculper l'Ukraine pour la crise alimentaire. Et là, c'était vraiment quelque chose qui a eu beaucoup de résonances dans différents pays africains. Et là, c'était un peu cross-border, vraiment. C'était pas plus on fait quelque chose de... mesurer pour des audiences étatiques, des audiences africaines différentes, mais ça va prendre beaucoup d'audience par des réalités différentes. Et
du coup, ça, pour ça, mais parce que bon, il y a eu un accord pour l'exportation du blé ukrainien, enfin, en même temps, du blé ukrainien, il y en a moins qu'avant, etc. Enfin, bon, ça, où est-ce qu'on en est, par exemple, et puis d'une manière générale, disons, si on se place sur un plan un peu plus global, est-ce qu'on peut dire que, au-delà de l'Occident, la Russie est dans une certaine mesure en train de gagner cette bataille informationnelle ?
C'est une bonne question. Moi, je dirais qu'en fait, il y a plus de choses à faire pour combattre la désinformation russe dans les restes du monde qu'en Europe.
C'est plus difficile.
C'est plus difficile parce que la désinformation, comme on a déjà dit, ça fonctionne plus quand il y a de vulnérabilité. Et ici, la vulnérabilité, c'est pas nécessairement la vulnérabilité des pays africains ou des pays de l'Amérique du Sud. C'est une vulnérabilité qui a ses racines aussi dans l'histoire et racines dans des fautes qui sont tout à fait historiques de la partie de l'Occident.
C'est-à-dire aussi bien la colonisation que les différentes guerres depuis 20 ans de la guerre contre le terrorisme.
Ah, aussi ça, on a fait des erreurs. Alors ça, c'est difficile à dénier, mais c'est sous cette erreur. Mais entendez-moi bien, on a fait des erreurs, mais on est quand même des démocraties. Et ça pose une différence. Mais quand même, c'est sur cette erreur aussi que certaines réussites marchent très bien.
On porte le poids de nos péchés passés dans une certaine mesure.
Oui, c'est une chose très chrétienne à dire, mais quand même, si, tout à fait. Et c'est aussi, en tout cas, une question de sensibilité sur les problèmes. Et ce qu'on a observé en Europe, et on travaille beaucoup avec en fait, la formation, c'est que les pays qui ont une sensibilité plus développée sur les soucis qui viennent de la désinformation, sur les menaces qui viennent de la désinformation, ils étaient capables de passer d'une réaction réactive à une réaction proactive. Et quand on commence à être proactif, on commence à être plus efficace contre la désinformation. Et ça, c'est les cas de le pays baltique, de la Suède.
C'est-à-dire des pays qui anticipent ce que vont être les opérations de désinformation, qui sont capables de, du coup, de les baliser, de prévoir ce que ça va être, plutôt qu'être passif et devoir réagir dans un deuxième temps.
Tout à fait. Un autre cas, c'est sûrement le Royaume-Uni. Mais en ce moment, en Europe en général, la sensibilité sur ce problème, ça monte. Et si ça monte, ça va entrer dans l'agenda politique. Et si ça entre dans l'agenda politique, ça devient une priorité. Et ça devient une priorité, on commence à faire la chose la plus importante qu'on doit faire pour combattre la désinformation, qui c'est médialittératie.
Donc la médialittératie, ça va être compliqué à traduire, mais disons l'alphabétisation média, la capacité à lire, à décrypter les médias et l'environnement informationnel, qui est donc aussi une des entreprises du DFR Lab. Donc je renvoie évidemment à tous les travaux qui sont en ligne, donc les rapports évidemment dont on a parlé, ils sont évidemment librement disponibles en ligne en PDF sur le site du DFR Lab, tout comme tous vos travaux. Et puis vous l'avez dit, mais il n'y a pas que les rapports que vous faites, il y a aussi toute une tâche de formation et de diffusion de bonnes pratiques.
Peut-être un dernier mot, on aura un grand plaisir en fait à faire salut à Roman Ozarchuk, qui c'est notre collègue et qui est basé à Kiev et qui était basé à Kiev depuis 2014 et qui a travaillé notamment sur les rapports Undermining Ukraine et a coordonné tous les travaux. Et en fait, voilà, on voulait dire salut parce que nous, on travaille sur ces topics de chez nous et chez nous, c'est tranquille et pour lui, c'est un peu plus compliqué. Et donc voilà, merci Roman.
Très bien, bah. J'aime bien, parce que c'est un côté un peu radio à l'ancienne, on fait des dédicaces, on salue des gens, c'est très bien aussi. Merci beaucoup à tous les deux, Mathia Cadiglia et Valentin Châtelet, merci beaucoup.
Merci.
Merci à toi.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Tout ça est toujours bienvenu, tout comme les notes et les commentaires, notamment sur les outils d'Apple Podcasts ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous. Et à la prochaine fois.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.